France Musique. Bonsoir à tous, bonsoir Rodolphe.
Bonsoir Émilie.
Nous sommes ensemble jusqu'à 22h pour l'actualité du disque d'aujourd'hui.
Et nous écouterons les musiques de Hugues Dufour, Isabelle Fraisse ou Goreski. Connaissez-vous Yap Nico Amberer?
Alors, Émilie. Pas du tout. Je ne sais pas d'où il vient, je ne sais pas qui il est.
D'après vous?
Je ne sais pas, parce que son nom s'écrit comme celui de Michel Berger.
Oui.
En Burger.
Oui.
Mais il n'a pas l'air français de ses prénoms.
Non, Yap, ça pourrait être...
Néerlandais.
Exactement. Et Nico, ça fait plutôt américain.
Ah, il vient d'où?
Eh bien, physiquement, nous sommes au Canada. C'est un compositeur né à Amsterdam, mais qui vit depuis 20 ans du côté de Montréal, où il compose et où il est en résidence. On vient d'écouter ici sa deuxième symphonie de chambre. Musicalement, nous sommes assez proches de Ligeti, avec une symphonie de chambre que vous allez entendre maintenant, qui est une sorte de dédicace à Ligeti, ou plutôt au parcours de Ligeti, comme un chemin de vie. Lui qui porte en lui toutes les atrocités du XXe siècle, jusqu'à la fuite du régime communiste, en se cachant sous un sac postal dans un train pour se rendre à Vienne. Et figurez-vous que l'œuvre que vous allez entendre emploie la métaphore auditive d'un périple ferroviaire passant de la jeunesse à la catastrophe, puis à la survie. Œuvre hautement un programme, mais c'est assez rare en fait d'avoir un compositeur qui met en musique la vie d'un autre compositeur. En ce sens, je trouve que les deux symphonies de chambre qui sont présentées ici par Yap Nico Amberer sont intéressantes. On a écouté la deuxième, voici donc la première, hommage à Ligeti.
Thank you.
la première symphonie de chambre de Jaap-Nico Hamberer, l'ensemble Caprice sous la direction de Matthias Meuthe. On découvre donc cette musique de symphonie de chambre, un compositeur vers lequel on va peut-être aller écouter d'autres œuvres, parce que c'est une véritable découverte.
Voilà un très beau disque que l'on doit au pianiste français Jean-Pierre Collot. C'est un musicien qui aime confronter les époques. Il a déjà rapproché Debussy et Chiarino. Et aujourd'hui, il réunit Schubert et Hugues Dufour, deux musiciens qui sont liés par une grande figure littéraire. Est-ce que vous imaginez laquelle ?
Serait-ce Goethe ?
C'est bien Goethe. Et d'ailleurs, le disque s'appelle « Vision spectrale de Goethe ». Alors Hugues Dufour avoue qu'il a longtemps négligé Schubert, puisqu'il était plutôt beethovenien de nature. Ce n'est que peu à peu qu'il a compris l'évolution de Schubert, qu'il a compris combien Schubert a dû lutter non seulement implicitement contre le monde politique, dit-il, mais aussi contre la première industrialisation du plaisir musical, parce qu'à l'époque, c'était le monde de Johann Strauss qui prévalait. Alors il y a donc Schubert d'un côté, Goethe de l'autre, ce poète qui façonne l'époque la plus éminente de l'histoire de la culture européenne, selon Dufour. Et comme Schubert, donc, ce sont ses textes qui l'ont inspiré. Mehr Stille, Erlkönig, Rastlos Liebe, des pièces écrites entre 1994 et 2006 et d'inspirations différentes, puisque le roi des zones lui a par exemple inspiré près d'une demi-heure de musique. Et plus bref, le Rastlos Liebe, amour sans trêve, des cascades de notes qui s'enchaînent dans une course folle, sans trêve ni repos, un déchaînement torrentiel joué donc par Jean-Pierre Collot. Rastlos Liebe, c'est la musique d'Hugues Dufour d'après Goethe et c'est joué par Jean-Pierre Collot. Vision spectrale de Goethe, c'est le titre de ce très beau disque qui est d'ailleurs notre disque de la semaine dans nos trompistes contemporains. Et c'est une vision de Schubert et de Dufour.
Donc il n'y a pas que François-Frédéric Guy aussi qui joue la musique. Absolument. De ce que je pense que certaines des pièces lui sont dédiées dans ce disque. C'est intéressant de découvrir aussi un autre interprète pour la musique d'Hugues Dufour.
En piste contemporain. Émilie Munera et Rodolphe Bonneau-Boulmier, France Musique.
Connaissez-vous le père de la symphonie moderne en Écosse ?
Non.
Le Dutilleux écossais.
Ah, je vais le découvrir avec vous, je vois son nom mais je ne le connais pas.
Il se nomme Thomas Wilson et le label Lean Record nous invite à découvrir cette musique chatoyante, colorée, bigarrée aussi. Il est mort en 2001 et il nous laisse 5 symphonies. Alors c'est une œuvre très ancienne qu'on vous présente pour une fois. Dans cette émission, on n'a jamais été aussi loin dans le temps, 1965. Je pense que là, effectivement, c'est presque de la musique baroque pour nous. Chef de la musique moderne en Écosse, Wilson a réussi, je trouve, à synthétiser le lyrisme d'une époque qui n'aimait pas trop ça, avec une recherche musicale qui réclame une certaine violence. C'est une sorte d'expressionnisme, finalement, cette musique. Le Royal Scottish Orchestra poursuit son intégrale. C'est le deuxième volume. Voici la deuxième symphonie.
Thank you.
étonnante musique.
Hein. Oh oui.
Celle de ce Thomas Wilson. Il y a une sorte d'efficacité aussi dans l'écriture orchestrale. Ici, c'était le Royal Scottish National Orchestra sous la direction de Rory MacDonald.
Encore de l'orchestre à suivre. Je vous ai fait entendre mercredi dans notre En Piste quotidien le concerto pour violoncelle d'Elgar par le français Sébastien Hurtaut.
Je m'en souviens très bien.
Et je vous ai dit quelque chose, je vous ai fait une promesse.
Qu'il jouait bien et qu'il y avait aussi sur ce disque une œuvre dite de notre temps et qu'on allait l'écouter.
Le Chemin des Dames, écrit par le compositeur néo-zélandais né en 1968, Gareth Farr. Le lien entre ces deux œuvres, c'est la Première Guerre mondiale, donc le concerto d'Elgar a été écrit pendant la Grande Guerre, et le concerto de Gareth Farr est quant à lui, je cite, dédié à la mémoire des combattants de la Première Guerre et au rôle fondamental des femmes à l'arrière. Le compositeur rend aussi hommage à ses trois arrière-grands-oncles tués dans la bataille de la Somme. Les deux œuvres sont très différentes de style, mais se ressemblent dans leur forme, écrit Sébastien Hurtaut. Ce sont presque des requiem à la dimension universelle. Gareth Farr lui compose une œuvre cyclique d'un seul grand mouvement. Le matériau du début de la pièce revient à l'extrême fin. C'est l'un de mes procédés favoris parce qu'il donne au public le sentiment d'un voyage. Voilà ce qu'il explique. À la fin, l'auditeur reconnaît les thèmes et le climat du début, mais comme il a traversé de nombreux climats différents au cours du morceau, la musique n'est plus la même, tout comme l'impact émotionnel. C'est vraiment une œuvre engagée. Quelque chose aussi de cinématographique. Vous allez entendre qu'on n'a pas de mal à imaginer ce qui pouvait se passer dans les tranchées à cette époque. Voici comment elle débute. Un extrait du concerto pour violoncelle, Le chemin des dames de Gareth Farr. C'était Sébastien Hurteau au violoncelle avec l'orchestre symphonique de Nouvelle-Zélande dirigé par Benjamin Norsey. Vous parliez d'efficacité tout à l'heure. Eh bien, là aussi, je trouve qu'il y a quelque chose de très efficace dans cette musique, très évocatrice. Et Sébastien Hurteau, c'est un interprète engagé dans la création. Il a créé ce concerto. Il a aussi créé la sonate pour violoncelle de Lucas Debargue ou le pas de deux de Yuli Galperin.
En piste contemporain. Émilie Munera et Rodolphe Bonneau-Boulmier, France Musique.
Est-ce que vous avez remarqué, Émilie, que nous sommes en année Beethoven ?
Quelque peu.
Qu'elle est bientôt finie,
oui.
Peut-être heureusement pour nous, parce que nous avons été inondés de disques dans notre en-piste quotidien. En revanche, les compositeurs vivants ont peut-être moins rendu hommage à l'illustre maître. Ça s'est fait plus discret. Finalement, assez peu d'œuvres musicales en hommage à Beethoven. En son temps, Philippe Manoury avait écrit une sonate qui reprenait le parcours des Diabelli. Ici, on va découvrir l'œuvre de la compositrice Isabelle Fraisse, qui dans le beau disque du pianiste Yumeto Suenaga propose quelques moqueries face au Diabelli ou à la sonate opus 111. Tout est parti, nous dit le pianiste. C'est lui d'ailleurs qui a proposé à la compositrice d'écrire, d'aller rendre visite à Beethoven. Et en fait, on s'est rendu compte dans cette visite que c'était quelqu'un de drôle, Beethoven. Donc les deux œuvres qui sont nées sur ce disque, elle a décidé de catapulter Beethoven, de le passer à l'essoreuse. Clin d'œil et citation parcourent ces bagatelles du 21e siècle. 3 moqueries sur une valse de Diabelli. C'est le pianiste Yumeto Suenaga qui joue ici la musique de la compositrice Isabelle Fraisse. J'ai beaucoup aimé ce disque, vous le savez, parce que je l'ai aussi diffusé dans notre En Piste quotidien. Il y a les variations Diabelli, il y a l'opus 11, il y a les bagatelles de Beethoven, et il y a donc ces deux partitions d'Isabelle Fraisse.
Rodolphe, en septembre, vous nous avez fait découvrir un quatuor de Goreski par le quatuor Tippett.
Oui.
Vous vous souvenez?
Oui, le Tippett Quartet.
C'était le troisième quatuor.
Je me souviens très bien.
Eh bien, moi, je vous offre aujourd'hui une intégrale des quatuors du musicien, cette fois avec le quatuor Molinari, ensemble québécois qui, depuis bientôt 25 ans, défend le répertoire des 20e et 21e siècles et sont donc très actifs dans le milieu de la création. Les trois quatuors de Goreski ont été écrits pour le Kronos Quartet en 88, 91 et 94. Ce sont des pièces qui ont eu beaucoup moins de succès critique que sa troisième symphonie. Je ne sais pas si ça avait été le cas pour vous, mais en préparant cette émission, j'ai lu de nombreux commentaires fort désagréables sur ce corpus.
Ah. Non, je me souviens pas.
Non, vous souvenez pas de ça.
J'ai lu passer sur les réseaux sociaux qu'il y avait un compositeur qui aimait bien les tierces de Goreski, qui ne les supportait pas chez d'autres compositeurs, mais chez Goreski, ça passe. Il les déteste chez Glass, mais chez Goreski, ça passe.
Alors, pourtant, le site du quatuor Molinari nous explique que cette œuvre va parler à tous les mélomanes. Je cite, la musique minimaliste de Goreski est tantôt très apaisante et tantôt pleine de vitalité. Ce disque d'une écoute facile et agréable pourra vous accompagner dans de nombreuses activités. Le troisième quatuor d'une durée de plus de 56 minutes est particulièrement propice à la méditation et au télétravail.
Ah, c'est tout pour vous.
Pour votre jogging ou votre marche quotidienne, c'est un peu moins pour moi. Écoutez la section centrale du premier quatuor ou allez vers les deuxième et quatrième mouvements du deuxième quatuor. Cela vous gardera en excellente forme. C'est une œuvre qui est effectivement très contrastée, même d'ailleurs au sein d'un même mouvement. On va l'entendre dans le deuxième quatuor. Ce deuxième mouvement commence de manière très énergique avant de s'éteindre dans un souffle. Le deuxième quatuor à cordes, opus 64, Quasi una fantasia, c'est le titre de cette œuvre d'Henryk Górecki, un titre pour le moins beethovenien. Et d'ailleurs, au dire de Górecki, ces deux premiers quatuors sont directement inspirés par Beethoven. Si vous voulez découvrir cette musique, les trois quatuors sont enregistrés par les Molinari et c'est édité par Atma Classique.
Et c'est le journal de la création de Laurent Villarem. Bonsoir Laurent.
Bonsoir Émilie, bonsoir Rodolphe.
Au programme ce soir.
Je voudrais tout d'abord commencer le journal par une belle initiative. Parfois on dit que les compositeurs sont autocentrés, c'est pas forcément faux d'ailleurs. Le compositeur Jean-Baptiste Robin vient d'écrire une œuvre pour piano intitulée « Résilience » en hommage aux soignants et notamment à son frère qui travaille dans un centre hospitalier. 40 grands pianistes français ont accepté d'interpréter la pièce en formant une grande chaîne humaine. Vous retrouverez le lien sur la page de l'émission. L'Académie des Beaux-Arts a remis ses prix 2020. 4 compositeurs sont distingués. Aurélien Dumont, prix de commande de la Fondation Del Duca. Violetta Cruz, prix Pierre Cardin. Alex Nante, prix d'encouragement. Et Graciane Finzi, prix Florent Schmitt. L'ensemble 2E2M est décidément très actif en cette période de confinement, puisque l'ensemble vient de lancer un programme de diffusion vidéo avec un concert tous les mardis soirs. Les concerts sont disponibles sur le Facebook et sur la chaîne YouTube de 2E2M. Émilie Rodolphe, c'est bientôt Noël.
Ah,
les magasins sont ouverts en plus.
Ça fait plaisir.
Pas encore si bientôt.
Si, ils le sont depuis hier, figurez-vous.
Ah,
vous
n'y étiez
pas.
Non, Laurent reste enfermé chez lui le samedi, enfin.
Chaque semaine, je vais vous donner l'idée d'un cadeau de Noël, ça vous dit ?
Ah oui.
Très bien.
Alors je voudrais commencer par un somptueux livre-disque, Moby Dick, d'après Herman Melville. C'était à l'origine un concert fiction diffusé sur France Culture. Et il y a une très belle et haletante musique de Fabien Waxman, interprétée par l'Orchestre National de France, dirigée par la grande Deborah Waldman. Le livre est édité chez Gallimard Jeunesse. Je voudrais vous parler maintenant de deux concerts en streaming la semaine prochaine, et tous les deux ont lieu dimanche. L'Orchestre National d'Île-de-France propose sur son site une nouvelle version de Hansel et Gretel avec une musique de Damien Lehmann le dimanche 6 décembre à 16h. Cela peut être une belle occasion de regarder avec les enfants, d'autant qu'il y a d'excellents chanteurs comme Marianne Crewe et Fiona McGowan dans les rôles-titres. Pour le deuxième concert, je vous emmène aux Pays-Bas, dans la mythique salle du Concert Trebao. Émilie Rodolphe, vous y êtes déjà allée ?
Ah, pas entrée, mais non, on l'a vu devant.
Oui, on l'a vu devant. Moi, j'étais au Musikgebouw, qui est l'autre salle,
qui est très beau aussi,
qui est très moderne, que j'aime beaucoup, mais non.
Dans mon souvenir, il y a de la moquette, j'aime bien une grosse moquette au Concert Trebao.
Ça, vous avez
ça vous plaît, ça.
Ouais, c'est soyeux. Sur le site du Concert Trebao, l'Orchestre d'Amsterdam propose toute une soirée consacrée à la musique néerlandaise d'aujourd'hui. C'est idéal pour prendre le pouls de la création là-bas. Il y a bien sûr Louis Andersen, deux créations de Bram Kortekas et Celia Zwart, je ne les connais pas. Et il y a un compositeur disparu en 1996 que j'adore. Et vous parliez du Dutilleux écossais. Oui. Lui, ce serait sans doute le Dutilleux néerlandais. Malgré tout cela, il est totalement méconnu en France. Il s'appelle Tristan Keuris. Les concerts seront disponibles en streaming sur le site du Concert Trebao d'Amsterdam. Dans quelques minutes, Suzanne Gervais proposera un carrefour de la création consacré à l'intelligence artificielle. À noter que Suzanne a coordonné un hors-série numérique pour le magazine La Lettre du Musicien. Vous pourrez vous procurer le numéro à partir du lien sur la page de l'émission.
Et c'est le moment de la rubrique, Laurent, pourquoi composez-vous ?
Je sais que vous avez passé sa musique dans En Piste Contemporain, Émilie Rodolphe.
Oui.
Et c'est vraiment une compositrice que j'adore. C'est la Suédoise Lisa Streich. Elle est l'autrice d'une musique magique, un peu flippante, faut avouer, hein. Silencieuse et immersive. Des paysages sonores très détaillés qui sont comme des voyages dans le temps. Et Lisa Streich parle français. Bonsoir Lisa Streich.
Bonsoir Laurent.
Alors j'ai trois questions pour vous. À quoi travaillez-vous en ce moment ?
Cette semaine, je travaille pas du tout parce que j'ai juste fini une pièce d'orchestre avec un peu de travail dans la nuit. Mais la semaine prochaine, je vais commencer une nouvelle pièce d'ensemble pour le Collegium Novum Zurich.
Avez-vous un message à faire passer ?
Pas vraiment, mais je souhaite que je puisse craquer la vie quotidienne des auditeurs pour un moment, pour penser de qu'est-ce que ça veut dire d'être en vie.
Et ma dernière question, pourquoi composez-vous ?
C'est compliqué, alors je fais très court. Si on ne peut pas faire ce qu'on veut, il faut faire ce qu'on peut.
Merci beaucoup, c'était parfait, bravo.
Ok, merci à vous. Bonne soirée. Au revoir.
il y a une grande création la semaine dernière, malgré le confinement. C'est un concerto pour piano d'une trentaine de minutes. Et vous parliez dans l'émission que les compositeurs ne rendaient pas toujours hommage à Beethoven. Eh bien, le troisième mouvement commence comme ça. Connaissez.
Mais l'orchestre seulement. Il manque des notes.
Oui, c'est une parodie du début du concerto de l'Empereur de Beethoven. Et c'est Francesco Filidei, le compositeur de l'Inondation. C'est un peu notre ciné à nous,
hein. Oui.
L'italien qui triomphe à Paris. Filidei vient de créer à Turin Tre Quadri avec Maurizio Baglini et l'orchestre de la RAI dirigé par Tito Ceccherini.
J'ai vu des tout petits extraits de répétition, ça a l'air assez incroyable pianistiquement, assez difficile à jouer, j'ai très envie d'en entendre plus.
Tout le concerto, c'est un festival d'idées flamboyantes et le troisième mouvement est une vraie destruction sauvage de Beethoven. Je vous invite à écouter ça, c'est rigolo. L'œuvre est déjà disponible sur YouTube. On se quitte avec la toute fin de Tre Quadri de Francesco Filidei. La fin du concerto pour piano de Francesco Filidei.
Merci Laurent, passez une bonne soirée et on vous retrouve
la semaine prochaine.
Les à propos d'Antoine Berland, vous savez que nous sommes aujourd'hui du côté des nouvelles technologies. Voici les réactions à chaud et les échos d'enfants après un spectacle de magie de la nouvelle compagnie 1420 au Channel. C'est une scène à Calais, d'ailleurs je crois qu'Antoine Berland est souvent du côté de Calais.
Les à propos.
Antoine Berland.
90 secondes de son.
Je crois que c'est bon là.
Oui.
Les à propos.
C'est bon pour tout le monde.
Antoine Berland.
Oui.
Il faisait semblant de se dédoubler, mais en fait, c'était des hologrammes. Ça se voyait trop.
Ouais, madame, quand il était doublé, là,
on voyait. Quand il bougeait, on voyait l'image.
Ouais, elle faisait flou.
Vous voyez que c'était.
Ouais, c'est
ça. Aussi, les boules de lumière, ils étaient reliés avec
une tige de bâton.
Non, une tige de bâton.
Parce qu'il tenait le bâton.
Les nouvelles technologies vues par les enfants, c'était les à propos d'Antoine Berland.
Merci à notre équipe, Claire Lagarde, José Bernays et Pauline Boisaubert.
À réécouter sur francemusique.fr.